Bon mardi à tous et à toutes. Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro avec vous jusqu'à 20h. On est en direct de CKRL aujourd'hui. Toujours un plaisir de vous retrouver ainsi les mardis pour parler bande dessinée, pour parler 9e art. Et d'entrée de jeu, en fait, je pense qu'on va commencer par un chapeau bas aux Québécois, Québécoises qui sont dans les sélections officielles du Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Alors, on en a deux cette année, des auteurs autrices d'ici qui ont fait cette sélection, une sélection quand même majeure, importante. Alors, dans la sélection officielle du festival, eh bien, il y a Blunk qui s'y retrouve, donc, pour son excellent Poisson à pattes. On se recontextualise, Poisson à pattes qui constitue un certain retour vers la bande dessinée. Il faut dire que Blunk, la BD, c'est son travail d'à côté, si on peut dire, c'est sa passion d'à côté, donc, ce qui fait qu'il y a une production peut-être un petit peu plus lente que ce qu'on souhaiterait, nous, comme lecteurs. Mais Poisson à pattes, donc, qui était arrivé dans le courant de l'année dernière, donc, qui nous ramenait un peu dans un univers aussi qui était plus médiéval comparativement à 23h72 et qui nous proposait dans le fond un récit sur la place qu'on devrait occuper dans le monde, sur une réflexion sur un être qui ne se trouve pas à sa place de par son intelligence, qui se questionne largement sur pourquoi il est là, il reste, mais qui essaie de composer avec ça, d'avancer. Et évidemment, il y a des morts aussi à travers tout ça. Une BD assez décapante qui s'était retrouvée finaliste d'ailleurs de quelques prix ici au Québec également. Donc ça, c'est Blunk. Et également, chapeau bas à Sophie Bédard. Donc, qui s'y retrouve pour Félix, un album jeunesse qu'elle a publié un peu plus tôt cette année, qui est d'ailleurs très, très haut sur ma pile de lecture. J'aurai l'occasion de parler à Sophie dans les prochaines semaines. Ça sera surveillé ici à La Vie en BD. Et pour ce qui est de Blunk, j'en profite pour vous rappeler que si vous allez faire un tour sur lavieenbd.com, vous pourrez retrouver l'entrevue qu'on avait faite avec lui à la sortie de Poisson à pattes, donc une belle demi-heure qu'on avait passée en sa compagnie. Alors, donc, deux chapeaux bas de ce côté-là. Et également, des salutations au passage du côté des trois auteurs et autrices, donc, qui étaient récompensés pour le prix de la critique ACBD de la bande dessinée québécoise. Ces prix-là qui étaient remis en fin de semaine, donc, dernière, du côté des rendez-vous de la BD de Gatineau, qui ont bien amablement accepté d'héberger ce prix. On est bien contents, d'ailleurs, qu'ils aient accepté. Et, ça a été une occasion de remettre, donc, coup sur coup, les trois prix, donc, 2020, 2021, 2022, trois prix qui avaient été un peu mis sur la glace en termes de dépôt main à main, gré à gré, en raison de la pandémie de COVID-22. On est bien content donc d'avoir pu ramener ces prix-là vers leur lieu physique. Et félicitations à nouveau aux trois auteurs. Donc, on se rappelle que Denis Rodier l'avait remporté pour La Bombe. Excellent, excellent ouvrage et monumental ouvrage qu'il avait dessiné sur plus de 5 ans. Ça avait été remis également l'année suivante à Jean-Paul Hyde pour Le Petit Astronaute, un album profondément touchant sur un enfant qui vit avec des syndromes dont j'oublie exactement le terme, donc je vais pas errer, mais donc on essaie d'aller à la rencontre de cette réalité-là par le regard de sa sœur, un album extrêmement touchant qui avait été d'ailleurs salué à gauche et à droite, un peu comme La Bombe. Et le troisième, c'était Football Fantasy de Zviane, donc la récipiendaire de cette année, qui nous amenait dans un récit à saveur improvisée, mais une improvisation rigoureusement maîtrisée tout de même, et donc trois prix qui étaient fort mérités. Alors, félicitations également à ces trois auteurs. On ferme la parenthèse, félicitations. Et sinon, pour cette semaine à La Vie en BD, on n'en restera pas complètement étranger, puisqu'en deuxième moitié d'émission, il y aura Stéphane Gravel qui sera de passage et qui nous amènera justement sur le créneau, sur le terrain des félicitations et des nominations, puisque lui a vu les listes et a fait une sélection, en a lu plusieurs, et ça ponctuera donc le mois en BD dont il nous fera état. Ça, c'est en deuxième moitié d'émission. Mais dans quelques instants, on va porter un regard vers les rendez-vous de la BD et vers la mise en page, la mise en planche, la mise en scène de la BD. Donc, un rendez-vous demain, mercredi, qui est consacré à cette thématique, donc nouvelle série. Et on va lui en parler dans quelques instants. Alors, c'est le menu pour cette semaine ici à La Vie en BD. Et voilà, donc toujours à la vie en BD. Je vous rappelle en fait que les rendez-vous de la BD en sont à leur 36e saison. Et donc, mercredi, le 14 décembre, on est habitué de les faire la veille, donc mais on a le temps de se préparer.
Exact. Demain, mais c'est pas demain.
C'est pas demain, c'est mercredi de la semaine prochaine, donc on a le temps de le mettre à l'agenda. On vous avertit un petit peu plus à l'avance cette semaine, en même temps pour profiter d'avoir le plaisir de se voir ici en studio à CKRL. Et ben, ces rendez-vous-là ont lieu toujours, comme d'habitude, sur la scène littéraire de la Maison de la littérature, disponible également en webdiffusion sur la page Facebook de l'institution. Et c'est d'ailleurs le dernier rendez-vous de cette saison d'automne. Donc, sous le titre « Planche éclatée », le 14 décembre, il sera donc question de mise en page et, ben, comme à l'habitude, le concepteur des rendez-vous de la BD est à notre micro pour nous en glisser un mot. Michel Giguère, bonsoir.
Bonsoir Raymond, à toi puis à ton auditoire. C'est vrai, il fait un temps de calor dehors. Puis même tout mouillé, c'est tellement le fun d'être en studio. Merci de me recevoir.
Un plaisir partagé. En fait, ça fait 12 ans qu'on remet ça avec un plaisir constamment renouvelé. Et je dois avouer en fait que ces thématiques-là, pour moi, sont extrêmement riches parce que ils nous permettent justement d'aller creuser un peu la manière, la forme de la bande dessinée. On se rappelle en fait, d'ailleurs, je pense que si on va fouiller dans les archives de la VRBD, on va tomber notamment sur la première partie dont tu nous avais parlé l'an dernier, le printemps dernier en fait, qui s'appelait « La fièvre ». Fièvre des planches, des bijoux de mise en page.
Oui, puis c'est toujours visible en rattrapage hein, sur la page Facebook de la Maison de la littérature. Une fois là, vous cliquez sur la section vidéo, après quoi vous verrez la sous-section consacrée au rendez-vous de la BD. Bon, cela dit, ça peut être intéressant de visionner la diapo-conférence de mars en prévision de celle du 14, mais c'est pas un prérequis. La deuxième partie s'appréciera telle qu'en elle-même, indépendamment de la première.
Oui, en fait, c'est pas des prérequis, comme on dit, donc on en profite et on va s'abreuver un peu autour de ces exposés-là, l'un en différé, comme tu dis, l'autre qui a lieu le 14, qui sont sur la mise en page et donc sur, si on peut dire, une suite sur le langage, sur les codes de la bande dessinée au final.
Oui, ben ça vient comme compléter une genre de série, là, avec deux autres présentations qui s'appelaient « Pourquoi on embarque ?» 1 et 2, les ficelles de la mise en scène et la mise en séquence. Alors, ce genre de rencontre-là, ben, ça s'adresse à quiconque a le goût d'aller plus loin que juste apprécier ses lectures. Hein. Si on embarque, comme on dit, c'est qu'il y a toute une mécanique dans la manière de raconter et c'est ça que je mets en lumière de façon, je pense, très accessible.
Et puisqu'on parle de mécanique, d'éléments de mise en scène, de façon de raconter, donc de façon un peu plus précise, de quoi il va être question mercredi 14 décembre?
Ben, je vais commencer par des rappels de ce qui a été vu en mars dernier dans la première partie. La planche et la double planche en tant qu'unité narrative. Le fait que la plupart des BDistes des dernières générations font coïncider un changement de séquence avec un changement de planche ou de double planche. Ensuite, le principe de la chute qui survient dans la dernière case de la planche de droite et qui donne irrésistiblement envie de tourner la page, c'est fait pour, comme on dit. On va aussi poursuivre la réflexion sur la symétrie de la mise en page. Plusieurs BDistes privilégient ce qu'on appelle le gaufrier, ou tout au moins, en tout cas, un canevas symétrique, un canevas en fonction duquel, si une case est plus vaste que les autres, eh bien, elle va par exemple être exactement deux fois plus haute ou trois fois plus large, puisque l'agrandissement va s'opérer, tu sais, sur le mode des tableaux dans Word, là, quand on fusionne deux cellules ou trois cellules, ce qui donne des possibilités de mise en page différentes, mais qui demeurent toujours symétriques. Eh bien, mercredi prochain, on va parler de ça, mais on va surtout voir des planches qui se soustraient justement, au contraire, se soustrait à tout canevas pour exploiter librement l'élasticité des vignettes, puis tout le potentiel de la mise en page.
Et évidemment, la mise en page, si on s'amuse un peu à faire des parallèles, on peut voir que dans certains courants, je pense à la BD intimiste, par exemple, autofiction, documentaire, dont on parlait d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, eh bien, souvent, on va avoir le réflexe d'aller où ce qu'on va observer, c'est surtout du gaufrier. Ça va être très présent, donc la case, la régularité, la structure. Et en parallèle, quand tu parles de planches éclatées, comme un peu dans le titre de ta présentation, souvent, si je me fie un peu à mes expériences de lecteur, eh bien, je vais en voir peut-être un peu plus dans des bandes dessinées de genre, donc l'heroic fantasy, la science-fiction, des bandes dessinées de super-héros.
Ah, t'as tout à fait raison. Dans le, justement, dans la BD intimiste et autres, il y a comme un souci d'éviter tant que faire se peut les effets de mise en page. T'as raison, puis en même temps, il y a toujours des exceptions qui font que les apparences sont parfois trompeuses. Par exemple, les œuvres d'Alan Moore, qui est un des scénaristes incontournables là, du côté anglo-saxon, ses œuvres suivent un canevas de mise en page tout à fait symétrique, notamment ses BD de super-héros comme Batman ou les Watchmen. Idem pour Paul Dini et Bruce Timm quand ils ont fait Mad Love autour du Joker et puis de Batman. Et parmi les genres, tu parlais de genre, il y a le western aussi avec ses grands espaces qui sont magnifiés par des mises en page très amples, très libres, comme par exemple chez DeRib dans Body Long Way, dans Red Road ou même l'excellente série jeunesse Yakari. Ce qui n'empêche pas que toutes les planches de Lucky Luke dessinées par Maurice, donc ça fait beaucoup, sont construites selon un canevas parfaitement symétrique. Parce que c'est pas d'hier que le gaufrier et ses déclinaisons sont utilisés en BD, comme en témoigne aussi, par exemple, la vieille série Bogdani.
Oui, puis en fait, ça nous montre, j'ai l'impression, parce que là, tu nous amènes aussi vers une époque où les planches comptaient des tonnes de petites cases et... Peut-être que dans le fond, il y a eu des évolutions, au bout du compte, au fil de l'histoire, au fil de l'exploration des auteurs, au fil de l'évolution du genre, au littéraire au sens large. Là.
Oui, puis ça va être le fun de voir ça dans le diaporama, là, de le voir en image, cette évolution de la mise en page au fil des décennies vers des... Ça, c'est assez frappant de voir des planches typiques de chacune de ces époques-là. Là. Et ça évolue vers des planches plus aérées. Cela dit, il se fait encore des choses aujourd'hui qui sont assez compactes, assez condensées aussi. Et à ce sujet-là, on va questionner au sujet des planches plus aérées puis des planches avec juste 2-3 cases. Là. On va questionner l'influence du manga sur certaines BD occidentales récentes. Encore une fois... Il y a néanmoins des exceptions notables, donc de BD récentes, là, avec des mises en page très denses, très meublées. Il suffit de nommer Chris Ware, le Britannique John McNaught, qui a 37 ans, donc c'est pas un vieux de la vieille, là. Ou encore Émile Bravo, Delaf, qui font vraiment des planches à 4 bandes très traditionnelles.
Et j'en profite pour mentionner au passage, Michel Giguère, là, tu parles de manga, tu nous nommes un Américain, un Britannique, un Français, un Québécois. Donc, d'un côté, les rendez-vous de la BD ratissent large, et de l'autre, ben, on voit aussi que ces tendances-là ne sont pas géographiques nécessairement, mais sont associées au récit, au bout du compte.
Oui, on ratisse large, justement, géographiquement parlant. Il va y avoir des BD d'un peu partout. Et puis, on va ratisser large, historiquement parlant, également. Je me fais toujours un devoir de rappeler que la roue a pas été inventée l'année passée. Donc, on va se rincer l'œil en admirant sur grand écran ou sur notre écran d'ordi ou de tablette, en tout cas, j'espère pas de téléphone, à moins que vous soyez mal pris, mais enfin. On va admirer de magnifiques mises en page tirées de BD parues dernièrement, comme Le petit frère de Jean-Louis Tripp ou Le château des animaux, Nettoyage à sec de l'étonnant Joris Mertens, Temps libre de Mélanie Leclerc dans la série Dans la tête de Sherlock Holmes, L'accident de chasse, Le Dracula de Georges Bess, La bibliomule de Cordoue, toutes des titres qui ont fait beaucoup parler à leur sortie toute récente, mais aussi des grandes BD de toutes les décennies, le 2000, 90, 70.
Oui, j'ai l'impression que c'est toujours un peu une particularité du médium BD. Là, si j'ouvre une mini-parenthèse là-dessus, parce que je trouve que le sujet est palpitant. Là. Mais dans le fond, c'est vrai que c'est un genre qui a toujours eu le souci de se réinventer ou d'explorer les frontières. On faisait des fois le parallèle avec Franquin, qui d'un côté va faire des trucs plus classiques, entre guillemets, et en parallèle avec les idées noires, se met en place des laboratoires. Il y a plein d'auteurs qui se donnent un peu le luxe de faire à la fois du traditionnel, à la fois d'exploser le genre, et dans le fond, qui vont influencer des auteurs soit avec un volet ou l'autre, et tranquillement, mais le genre se développe et expérimente simultanément qu'il développe, qu'il met en place ses codes.
Ouais. Tu comptes? Ouf, tu me rappelles un beau souvenir d'une présentation que j'avais montée. C'était un portrait en parallèle, puis qui était peut-être un petit peu intriguant, un petit peu désarçonnant de prime abord, mais c'était le portrait donc de Franquin du côté humoristique, en même temps que de Giraud Moebius du côté réaliste. Parce que je trouvais que tous les deux, c'est ceux qu'on nomme le plus souvent comme étant les deux grands virtuoses du dessin de la BD, en tout cas, tout au moins franco-belge. Et puis, même si on les a pas souvent mis en parallèle, parce qu'ils sont pas tout à fait de la même génération, Giraud étant comme une génération plus jeune, il demeure que moi, je voyais plein de parallèles entre les deux, outre leur virtuosité. Ce que tu viens de dire, le fait qu'ils ont échafaudé une carrière, à un moment donné, ils ont eu le goût de faire autre chose, et ils ont développé, sans renier ce qu'ils faisaient avant, là, quoique Franquin, il reniait beaucoup ce qu'il faisait avant, mais bon. Mais en explorant des nouveaux styles, des nouveaux genres, et ils ont été influents comme très, très peu de BDistes ont été influents. Bon, on peut penser à Tezuka du côté japonais, mais ou Kirby du côté américain, mais sinon, c'est exceptionnel d'être aussi influent que ça, là. Fait que oui, c'est une belle évolution, mais qui ne se fait pas indépendamment de l'évolution du lectorat. Et ça, on va en parler beaucoup mercredi soir prochain, le 14. Il y a des BDistes qui sont à l'avant-garde et qui vont prendre une longueur d'avance, mais à un moment donné, le public va peut-être les rattraper, mais le gros de la production, le gros des artisans de la BD vont être influencés par eux, puis vont les suivre, puis ça va se faire en parallèle du public. Donc, le public aussi évolue, fait qu'on va voir, entre autres, auparavant, des planches bourrées de textes. Bourré de cases.
On pense texte. À Greg, par exemple, dans Achille Talon.
C'est autre chose. Greg, dans Achille Talon, justement, c'était comme au second degré. C'était quasiment...
une logorée verbale, presque.
Ouais, mais c'était comme une parodie quasiment d'un Jacobs qui, lui, tenait à garder beaucoup, beaucoup de textes parce qu'il voulait développer, conserver ce côté-là très littéraire. Greg, lui... il en met tellement que ça se peut pas, du monde qui parle de même, là, mais ça en était drôle, t'sais. Donc c'était dans la parodie un peu, mais c'est toute une période, les années 50-60, même 70, où le récit avançait par les dialogues énormément, et puis à un moment donné, la bande dessinée s'est affranchie, ou plutôt c'est l'image de BD qui s'est affranchie progressivement du texte. À un moment donné, l'image n'avait plus besoin du texte en tant que béquille pour comprendre le récit. T'sais. Mais ça se fait pas, encore une fois, indépendamment du lectorat. Fait que le lectorat s'éduque. Il se familiarise avec le médium, d'abord, parce qu'il faut penser que la bande dessinée, elle a pas 1000 ans. Et puis, au fil des décennies, ça évolue vers de moins en moins de textes. Puis là, on essaie des choses, puis les gens... ils suivent, sont pas trop perdus. Alors, une page ou deux, pas de texte, ou toute une séquence entière où le personnage se déplace, puis rien qui est expliqué. Des BD où, à un moment donné, il n'y a plus aucune intervention du narrateur qui venait toujours boucher les trous, faire les petits raccords qu'on n'avait pas nécessairement compris et qu'on peut tout le temps faire en image, même si c'est plus compliqué, mais on peut quand même les faire sans texte, éventuellement. Fait que c'est cette évolution-là, on va la voir, exemple à l'appui. Donc, ça donne une valeur ajoutée à tout le phénomène.
Et de percevoir, parce que je trouve qu'il y a une richesse à mettre en côte à côte, justement, ce type d'imagerie-là, pour prendre conscience peut-être aussi que de l'effet de cette mise en scène. On est beaucoup sur les cases, et je trouve que c'est un bon exemple, parce que une case d'une certaine forme, un enfilade de cases d'un certain type, qui vient être rupturé d'une façon X ou d'une façon Y, va avoir un impact sur le rythme de lecture, peut avoir un impact sur mon ressenti. Quand je regarde, par exemple, et là, je pense à des entretiens que tu as fait, entre autres, avec Michael, que j'ai fait, où on se retrouve, il me disait, avec des cases qui sont très, très au sol, très sobres, où on se retrouve presque harnaché au sol par les épaules, un peu dans la case, ou restreint, ou au contraire, qu'on ouvre vers le ciel. Ça a des impacts émotifs aussi, des impacts rythmiques. Donc, ça c'est là qu'on comprend à quel point la case elle-même devient un outil pour le dessinateur, pour structurer son récit, et pour structurer la façon dont on reçoit ce récit-là.
Et pour étayer ce que tu dis, il y a un aspect aussi qui s'ajoute à l'effet sur le lecteur. C'est ce que Christian Quesnel, le doctorant à l'UQO, appelle le surgissement. Le fait que quand tu tournes la page, tu sais pas ce qui t'attend de l'autre côté. Donc, certains BDistes jouent de ça. Et quand tu tournes effectivement la page, ils t'envoient en pleine face une espèce de grande, immense case, tu sais. Fait qu'on va le voir, nous, non pas en tournant la page, mais c'est moi avec ma petite commande qui va peser sur le piton, puis on va changer d'écran, puis ça va faire le même effet de surgissement.
Et on comprend, je pense, Sophie, j'espère qu'on partage ça avec les auditeurs, auditrices, mais qu'il y a un plaisir à réfléchir ces mécanismes-là, à les comprendre. Des fois, en fait, une fois qu'on a lu la première fois un album de façon instinctive, qu'on a ressenti, ben après ça, de revenir, d'essayer de comprendre pourquoi on a ressenti ça. Et, ben évidemment, on a l'exemple de la symétrie, et on a l'exemple des cases dont on parle depuis tout à l'heure. Mais Michel, outre ça, et à part cette évolution-là, évidemment, il y aura d'autres thèmes que tu vas aborder mercredi 14.
Oui, il va être question de ce que j'appelle les mises en page architecturales, très construites et qui se déploient comme un édifice. Celles qui explosent, celles qui s'érigent sur un mouvement de caméra. Quand je dis mouvement de caméra, c'est entre guillemets, là, parce qu'évidemment, à BD, il n'y en a pas, mais par exemple, une planche entière qui va s'articuler autour d'un zoom avant ou d'un zoom arrière ou d'un mouvement panoramique là, qui va comme circuler dans un grand paysage panoramique. Et puis, pour finir, un aspect qui peut sonner ésotérique, la planche en tant qu'espace à parcourir. Un espace à parcourir tant par les personnages que par l'œil du lecteur. Et ça, le BDiste essaie de contrôler tant que faire se peut cet aspect-là. Donc, des notions qui vont se faire beaucoup plus claires avec des exemples à l'appui, là, avec plein de planches, mercredi prochain.
Et comme tu nous as habitués, ce sera assurément des beaux exemples.
J'ai le choix. Hein?
T'as le choix, exact. Et ben ça se passe, dans le fond, mercredi 14 décembre. Donc, c'est à 19h à la Maison de la littérature ou en ligne sur la page Facebook de la Maison. Et je le rappelle, ce sera le dernier des rendez-vous de la BD de la saison. Tu seras de retour ensuite en février de l'année prochaine. Donc, je rappelle le titre, c'est Planches éclatées, la mise en page suite et fin, animé par Michel Giguère, qui était avec nous en studio pour en jaser un brin. Michel, ben on se dit à mercredi et à l'année prochaine. On est déjà rendu là.
Joyeux Noël.
Joyeux Noël.
Merci Raymond.
À très bientôt. Alors, ben voilà, donc, ce regard vers les rendez-vous de la BD ici à La Vie en BD. C'est toujours à La Vie en BD. On va prendre peut-être quelques petites minutes pour faire deux petits clins d'œil, ma foi très rapides, à des bandes dessinées. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas fait de critiques, de commentaires. Alors j'avais envie de vous parler peut-être, et en même temps c'est un peu, je dirais pas c'est un hasard, mais un peu volontairement. Donc j'en ai profité pour lire ces deux albums-là côte à côte, puisque je trouvais qu'on explore d'une certaine façon, en fait, des thématiques qui sont corollaires, sans nécessairement être implicitement liées. Je vais très rapidement. Donc d'un côté, Adieu triste amour de Myrion Mal. Donc, c'est du côté des éditions Pau. Pau, un récit, dans le fond, l'autrice qui nous amène à la rencontre d'un personnage central qui, elle-même, est autrice BD, qui est immigrée de France et qui a suivi vers le Québec, dans le fond, son amoureux et qui, au détour d'un soir, d'une fête, d'une discussion, ben, se rend compte que, au bout du compte, son amoureux a des parts d'ombre dont elle n'était pas consciente. Évidemment, ça arrive à tout le monde, donc elle a une réaction qui est parfaitement raisonnable. Elle entend les éléments, elle partage ça avec son conjoint, et son conjoint a une réaction très forte, très vive, surprenamment forte même, qui lui amène justement à se questionner par rapport à tout ça et à avoir l'impression qu'il y a peut-être un peu anguille sous roche parce que son conjoint a vraiment volonté de couper court à cette réflexion-là, de couper court à cette part de son parcours. Alors, elle reste un peu sur ce malaise-là, mais n'arrive pas à s'en émanciper. Et ben, tranquillement, dans le fond, elle va nouer une relation professionnelle avec la femme donc qui lui a révélé un peu qu'il y avait peut-être quelque chose, mais sans lui dire qu'est-ce qu'il y avait non plus. Donc, il y a un respect qui s'est installé un peu dans tout ça. Et finalement, ben, elle, au fil des discussions, donc elle va décider d'essayer de creuser un peu. Éventuellement, c'est un peu cette sphère réactionnelle-là de la part de son conjoint qui va l'amener à se questionner sur sa relation, à se questionner sur la nature de cette personne-là et ben, à se questionner sur son avenir à elle et sur l'avenir de leur couple. Donc, j'en dis pas plus, on est un peu comme dans C'est comme ça que je disparais, où l'autrice donc nous amène vraiment sur une tranche de vie, sur un moment, sur un instant dans la vie de ce personnage-là, où on voit dans le fond cette remise en question, où on voit une mise en action qui est effectuée, qui nous amène ailleurs, mais ensuite on ne sait pas où mènera cet ailleurs-là non plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a un ailleurs et qu'il y a une lumière, au bout du compte, à la sortie de cette crise-là. Une crise où on comprend qu'elle a peut-être évité une relation toxique, elle a peut-être évité une relation avec une certaine violence, si on peut dire. J'en dis pas trop non plus, mais on a vraiment un récit qui débute en hiver, qui tranquillement, dans le fond, s'en va vers le printemps, donc en route vers ce dénouement-là. On a un récit qui met aussi beaucoup de l'avant les cercles féminins de soutien, donc cette fille-là, ben, elle a un réseau, elle a des amis, ses amis la soutiennent, ses amis sont derrière elle. On est dans un récit qui est pas non plus en noir et blanc, non, dans la mesure où l'homme aussi, le conjoint, lui aussi a des amis qui le soutiennent aussi. Donc, ce qui fait qu'on essaie quand même d'amener une mesure aussi dans tout ça. C'est pas un récit qui est manichéen. Un peu comme C'est comme ça que je disparais au bout du compte. Et donc, ce qui fait que dans ces explorations fictionnelles, ben, Myriam Malle réussit à mettre le doigt, je trouve, sur une véritable humanité dans ses personnages. Et tout ça dessiné avec douceur, des traits semi-réalistes, donc qui fonctionnent bien, qui nous entraînent dans ce récit-là. Vraiment une belle bande dessinée de ce côté. Donc, Adieu, triste amour de Myriam Malle chez Pow Pow. Et en parallèle, je voulais vous amener aussi sur Géant au pied d'argile. Donc ça, c'est du côté nouveauté de Moelle Graphique de Marc McGuire et Alain Chevrier. Où on est un peu dans la toxicité d'une certaine façon, mais moins dans la peur de l'autre et plus dans la peur de soi, j'ai envie de dire. Dans la mesure où on a un personnage principal, un homme qui est immense, un colosse de presque 7 pieds, qui a une femme, qui a des enfants, qui a une relation qui est somme toute correct, dans la mesure où parfois ça va bien, parfois ça va moins bien, mais ça reste généralement correct, mais qui visiblement, lui, traverse une crise personnelle. Donc, il a peur d'être seul avec ses enfants parce qu'il a peur de sa colère, parce qu'il a peur de la façon dont il pourrait interagir de façon inadéquate, inappropriée avec ses enfants. Et donc, il va être confronté à cette peur-là dans la mesure où sa conjointe, elle, a une carrière, elle veut pouvoir faire les choses à sa façon, faire des choses de son côté, ne pas être complètement emprisonné dans la réalité familiale, sans l'emprisonner lui non plus, mais simplement vivre sainement une parentalité où les deux parents travaillent et où les deux peuvent aller travailler à l'extérieur, laisser les enfants à l'autre. Bref, vous comprenez un peu ce type de portrait-là. Et lui est un peu figé par rapport à ça parce que justement, son père a une historique de violence, son père a une historique d'alcool, son grand-père a une historique de violence, son grand père a une historique d'alcool. Bref, il y a l'impression que génétiquement, il est prédisposé à cette colère-là. Il y a des moments dans l'album où on se rend compte qu'il y a effectivement cette rage-là à l'intérieur de lui, qui est peut-être aussi carburée par l'anxiété que la rage elle-même lui fait carburer. Donc, il se retrouve un peu dans ces méandres-là et on comprend qu'il ressent le besoin de trouver une porte de sortie à ça. La porte de sortie est un peu peut-être l'évitement à un moment donné. Éventuellement, cet évitement-là l'amène quand même à devoir confronter cette peur-là, à devoir confronter cette rage-là et peut-être se redéfinir à l'intérieur de lui-même, à l'intérieur de sa famille, face à ses enfants et le reste. Donc, c'est des grandes thématiques, en fait, autant pour Adieu, triste amour, autant pour Géant au pied d'argile, dans le fond, la BD qui nous confronte à nos travers d'humains, qui nous met de l'avant la possibilité qu'il y a des portes de sortie, qu'il y a des façons de se sortir de ces situations-là, autant et aussi longtemps qu'on décide de faire les efforts pour cheminer sainement dans cette logique-là. Et dans Géant au pied d'argile, McGuire donc nous offre un scénario qui, encore là, est très riche, des personnages qui sont humains. En fait, il y a rien de manichéen dans ce récit-là non plus. On se retrouve avec l'homme dont je vous parle depuis tantôt, mais un ami qui vit quelque chose de similaire aussi, donc qui sont capables de s'épauler un peu ou à tout le moins de dialoguer, de se comprendre, de parler. On va aller chercher aussi un psychologue, on va aller chercher des ressources. Donc, on a quand même quelqu'un qui se met en mouvement, pas toujours de la bonne façon non plus. Ça va amener des tensions au sein de sa famille, mais j'en dis pas plus. Simplement pour dire que d'un point de vue récit, d'un point de vue psychologie de personnage, ça fonctionne. Un dessin qui est très simple, un peu de type croquis, qui nous ramène vers le texte, qui nous ramène vers l'humanité de ce récit-là et qui vient vraiment l'appuyer, le rendre de belle façon en image. Donc bref, une autre recommandation là, que je pourrais vous faire sans crainte, c'est Géant au pied d'argile de Marc McGuire et Alain Chevrier. C'est du côté de Moelle Graphique. Alors ben voilà, deux petites suggestions BD ici cette semaine à La Vie en BD.
Vous êtes toujours à l'écoute de La Vie en BD sur les ondes du 89.1 CKRL. Raymond Poirier toujours avec vous jusqu'à 20h ce mardi pour parler 9e art. Et maintenant, je suis en compagnie de Stéphane Gravel. Bonjour Stéphane.
Tu t'en rends pas compte, là, mais je pleure.
T'es ému?
Ouais, mais je suis triste aussi. Mais je suis pas triste, Tantôt, j'écoutais puis j'entendais les pubs à CKRL, puis on va fêter les 50 ans de CKRL.
Oh oui, un gros anniversaire qui s'en vient.
Oui, puis quand j'ai commencé à faire mes émissions de bande dessinée, on avait fait faire un dessin par François Bouc pour faire un T-shirt pour fêter l'anniversaire de CKRL, et c'était le 18e anniversaire de CKRL.
Donc ça te renvoie un peu plus loin. Et ça nous fait rendre conscience de ce que ça fait longtemps que tu nous jases de bande dessinée en ondes d'une émission à l'autre, d'un projet à l'autre. Je pense qu'on s'était croisés quand j'étais au matin, ça fait pratiquement 12 ans de ça. Et tu avais déjà une bonne historique à l'époque.
C'est j'en reviens pas, c'est incroyable. C'est incroyable.
Et le défi des fois, c'est de réussir à sortir des sentiers battus ou à sortir de nos routines de lecture. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, Stéphane, c'est un peu ce que t'as tenté de faire, parce que au bout du compte, il y a plein de prix, il y a plein de finalistes, et ça devient des. On dit toujours un peu, c'est des listes de suggestions de lecture. Alors tu l'as pris un peu au mot et t'as sorti de tes carcans.
Je suis sorti de mes spirou.
Oui.
Mais écoute, le mois dernier, quand on parlait de bande dessinée, puis que t'avais fait l'annonce des prix. De l'Association des journalistes en bande dessinée, là, je me disais, j'ai rien lu, je connais rien. Fait que je me suis dit, je vais fouiller un peu là-dedans, je vais regarder un peu ce qui se passe à Angoulême aussi. À Angoulême, il y en a un paquet. Là. On pourrait faire une émission par semaine jusqu'à Angoulême pour essayer de voir juste les nominations. Et puis, oui, je suis sorti un peu de mes... De mes lectures habituelles, mais...
Ou du moins des derniers mois, parce qu'on s'entend que tu nous amènes souvent ailleurs aussi. Là, ça.
J'aime beaucoup travailler les classiques, parce que je trouve qu'on oublie parfois que les classiques sont des classiques. Puis la bande dessinée a un côté qui vieillit pas. Je trouve que les classiques réussissent aussi à ne pas vieillir. Un bon vieux Lucky Luke, ça reste un bon vieux Lucky Luke. Un bon vieux Spirou, c'est un bon vieux Spirou. Il y a pas la texture qui rend la chose vieille. Puis je trouve que on les oublie parfois, ces BD-là de 48 pages qui sont de simples et bonnes BD.
Mais on les oublie aussi ce mois-ci, Stéphane. Bon. Tu nous amènes, en fait, on a choisi à peu près 4 titres, si je me trompe pas. Donc, on va tenter de les passer là, dans les prochaines minutes. Et on commence notamment avec La Dernière Reine.
J'aime Rochette, moi. En partant, là, c'est un auteur que j'adore. J'ai aimé quand il avait fait ses BD, Altitude, je me souviens plus du chiffre, sur l'ascension en montagne. J'en avais parlé beaucoup. C'est quelqu'un qui a un dessin qui est très personnel. Il y a un dessin qui peut rebuter, parce qu'il n'y a pas un dessin il n'y a pas une ligne qui est simple, il n'y a pas une ligne qui est claire, il y a un côté un peu fouillis dans son dessin, mais c'est un dessin qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'émotions. Depuis quelques années, il travaille beaucoup sur ses scénarios autour de la nature, autour de la montagne, endroit où il vit et qu'il va privilégier. Et là, avec La Dernière Reine, c'est une BD assez touchante, j'oserais dire. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est un homme qui devient une gueule cassée par la guerre, qui va se faire réparer par quelqu'un à Paris, mais qui va toujours vivre un peu renfermé dans son monde, parce qu'il est devenu un monstre quelque part. Mais la dame qui lui a fait son nouveau visage, qui lui a fait un masque, lui a vraiment fait un masque d'une beauté exceptionnelle. Les deux personnes vont avoir une relation. Elle qui lui a fait découvrir le monde des arts à Paris dans les années 20, lui qui va lui faire découvrir la nature et sa montagne. Bon, Ça, c'est l'idée de base, mais Rochette va réussir à amener à travers ça l'histoire de la chasse à l'ours, l'ours qu'on veut tuer pour essayer de préserver ses troupeaux, le manque de respect de la nature par l'être humain, et comment lui, il va être pris dans cette histoire-là, une histoire qui va devenir malheureusement tragique, je ne dirai pas pourquoi. Il n'y a pas une fin extrêmement heureuse dans cette bande dessinée-là, mais elle fait poser beaucoup de questions sur la place de l'homme dans son monde. Et c'est ça que je trouve intéressant, parce que ça soit la guerre de l'homme contre l'homme quand on est à la Première Guerre mondiale et qu'on est dans les tranchées et que les gens doivent y aller pour s'entretuer, ou que ça soit la guerre contre une nature qui est une menace pour l'autre nature qui va nous alimenter, il reste dans ça que de l'hommerie et une non-réflexion sur la conséquence des actes qu'on cause. Et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement bien dans cette BD-là. Puis le dessin, là, qui est chargé et qui est assez sombre de Rochette, va doublement exprimer son scénario. C'est une BD qui... tu sais, c'est le genre de BD, Raymond, que quand on a terminé de la lire, il nous en reste encore un peu.
Ouais, là. Tu restes sous le choc un peu de ta lecture puis de l'expérience que tu viens de vivre, d'une certaine façon.
Oui, oui, puis je me posais la question aussi, pourquoi ces BD-là sont nominées? C'est un peu niaiseux comme question, mais qu'est-ce qui fait que cette année... La dernière reine de Rochette est mise en nomination. Ben, je pense que c'est ça. C'est justement le côté humain qui est fort. On est en pleine guerre là, en Ukraine, c'est la guerre. On est conscient que l'être humain encore une fois fait des bêtises qu'on pensait jamais qu'elle allait revenir. On a des problèmes avec la biodiversité. On le voit aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que ces BD-là nous touchent et elles sont nominées, parce que elles sont, malgré qu'elles soient historiques, c'est-à-dire qu'elles se passent dans les années 14-18, et même un peu après, ça reste une BD qui est fondamentalement, malheureusement, contemporaine.
Et donc, ça, c'est une première suggestion inspirée des sélections, comme tu le disais, des différentes sélections en cours. Donc, La dernière reine de Rochette, c'est chez Casterman. On met l'accent sur une expérience, un moment partagé au bout du compte avec l'auteur. Et je vais un peu dans ta pile, Nettoyage à sec, tiens.
Nettoyage à sec, on s'en va dans les années 70, Bruxelles, 1970-75. Wow!
Côté dessin, côté ambiance?
Côté ambiance, c'est extraordinaire. Le récit se passe en une semaine. C'est une semaine comme ce soir. Là. C'est une semaine
de pluie abondante. C'est tellement cinématographique, la pluie, par exemple.
Ouais, là, elle est BDI graphique. J'ai rarement vu quelqu'un qui réussit à dessiner aussi bien la pluie, puis aussi bien le... C'est les reflets des néons dans l'eau. Mais cette pluie-là est chargée aussi de symbolique, parce que l'homme travaille pour une compagnie de nettoyage, est un chauffeur pour une compagnie de nettoyage à sec. Donc, bon, il est constamment en train de se faire laver, disons. C'est quelqu'un qui a c'est un pauvre homme solitaire qui a une vie plutôt plate. Qui joue au loto, puis qui essaie qui va toujours prendre la bière au même café.
C'est très routinier.
Mais l'auteur ici réussit encore une fois à amener tellement d'ambiance et amener tellement de climat dans ça. Justement, l'auteur est quelqu'un qui a travaillé beaucoup dans le domaine du cinéma. C'est quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur l'éclairage, qui a eu la plupart de sa carrière à être passée dans le domaine du cinéma. Puis on le sent. Puis on sent aussi son côté cinéphile, parce que il y a des ambiances qui peuvent nous rappeler justement des univers cinématographiques. Quand on voit quelque part dans le Quand on voit quelque part quand il se promène dans les rues de Bruxelles et qu'on voit que c'est le vieux fusil, le film de Enrico qui est en salle, on comprend qu'il y a des atmosphères de tout ça là, qui se rapprochent. Donc, il y a des symboliques comme ça qu'il va placer un petit peu partout. Puis nous, on suit ce personnage-là tout simplement qui va porter, chercher des vêtements pendant qu'il est en train d'entraîner un nouveau qu'on sait pertinemment qui risque de prendre sa place parce que c'est le neveu de la patronne. Donc, mais il va arriver, je l'ai dit tantôt, c'est quelqu'un qui joue, il joue au loto. À chaque semaine, il va prendre le même numéro qu'il pense qu'il, lui, va être un numéro gagnant. Et puis, là, ben, le hasard des choses va lui imposer des choix. Il va le faire des choix. On s'attend un peu à la fin, malheureusement, mais on a quand même une surprise. Et encore une fois, c'est une BD touchante qui finit sur une note assez triste. C'est beaucoup plus au niveau graphique que cette BD-là est intéressante. Là.
Alors ça, c'est Nettoyage à sec, c'est de Joris Mertens et c'est chez Rue de Sèvres. Et là, je regarde, dans la prochaine vers ta pile, donc ça serait, si je me trompe pas, Merel de Clara Ludwig chez Casterman.
Bon, première BD de cet auteur-là. Ce que j'ai aimé dans cette BD-là, c'est qu'elle est chez Dupuis. L'air de rien, on sent que Dupuis est en train de...
Oui, c'est les ondes Marcinelle, effectivement. Ouais. Je vais regarder la BD en dessous.
On sent qu'on est en train de on a tué Spirou, là. Ouais. On a tué Spirou, au sens journal Spirou aussi. On n'est plus dans Air Libre, on est dans une autre... On est dans une autre collection et on commence à chercher vraiment des auteurs qui vont faire la BD du futur, je pense, et qui vont avoir un impact sur les prochains auteurs de BD, qui vont avoir de l'influence. Cette BD-là, encore une fois, qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi elle est choisie? Je pense, c'est parce qu'encore une fois, c'est une BD qui est très, très, très touchante et très humaine.
Bon, là, on est beaucoup dans l'humanité aujourd'hui.
Oui, même toi, tes BD étaient dans l'humanité. C'est l'histoire d'une dame qui, dans son village, a tendance, disons, c'est une femme célibataire qui s'entend très bien avec les hommes, elle a des discussions avec eux, les journalistes vont faire des articles sur le club de foot. Tu sais, quand on dit la fille est un gars de la gang, là, genre. Mais les rumeurs commencent sur cette femme-là, comme de quoi elle est trop proche des hommes, les rumeurs partent, des enfants vont interpréter et grossir la rumeur et on va se mettre à harceler cette pauvre dame-là pour, à fin de compte, aucune raison. Elle ne sait même pas pourquoi elle est harcelée. Donc, cette BD-là nous montre un peu comment aujourd'hui les médias sociaux sont un peu les ragots de village.
Donc, l'impact du ragot sur la psyché d'une personne,
et comment ça peut être difficile de vivre avec ça, et comment cette personne-là devient le regard que les autres portent sur elle. Ouais. C'est la personne qu'elle est, elle est la seule à vivre avec, mais quand l'ensemble du village ont l'impression que, et que les gens ne savent plus d'où vient la source, qu'est-ce que c'est?
Ça nous rappelle que l'humain est une construction sociale et que malheureusement, ben, des fois, c'est quelque chose qui nous est imposé et duquel on ne réussit pas à s'émanciper, même si c'est des mensonges. Ben, c'est le mensonge mille fois répété au bout du compte.
Exactement. Puis même elle va venir qu'elle se mette elle-même en doute. Elle ne comprend pas ce qui se passe. Écoute, c'est bien fait. C'est pas un dessin que moi, je trouve extraordinaire. Il y a un côté un peu naïf dans ce dessin-là, mais on oublie très vite le dessin parce que l'histoire est forte, puis on avance, puis on embarque, puis c'est une bande dessinée classique avec un découpage classique, et je reste un petit peu dans l'esprit du début, là, mais au niveau des personnages, au niveau des personnages secondaires, au niveau de cette femme-là, les personnages sont extrêmement bien campés, on y croit, on aimerait ça que les choses s'arrangent pour elle. Là. Et les enfants là, sont vraiment extraordinaires là-dedans. Il y a du bon et du mauvais.
Alors, à découvrir, et en fait, les réflexions, comme tu dis, c'est des réflexions qui sont très actuelles, au bout du compte, veut pas, avec tout ce qui se dit, toute cette désinformation-là. Alors, des fois, ça nous confronte aussi à la perception qu'on peut se faire sur les gens à partir des potins.
Il n'y a rien de vrai, là. Tout est faux.
C'est fou.
Tout est faux.
Alors ça, c'est Merel de Clara Ludwig, et c'est donc du côté des Ondes Marcinelles, donc nouvelle collection chez Dupuis. Et comme tu disais, ben, enfin, on fait le pont avec ton mois BD du mois dernier, puisque ben, tu nous parlais de la mort de Spirou. Et ben, la BD qui était en dessous, qui était chez Casterman, c'est Le poids des héros de David Salah, et tu restes encore dans un récit empreint d'humanité?
Complètement. Deuxième guerre mondiale, cette fois-là. Un homme quitte l'Espagne parce qu'il est mis, à mort par Franco. Il va essayer de se reconstruire une vie, mais ça va extrêmement vite. On va y aller de génération à génération. C'est l'histoire de son petit-fils qu'on va suivre. Le petit-fils qui, lui, raconte un peu sa vie dans cette BD-là. C'est une BD qui est autobiographique. Comment il en est venu qu'à devenir auteur de bande dessinée, et quelle a été l'influence de son historique familial.
Intéressant.
C'est extrêmement intéressant. On est loin. On sent pas du tout qu'on est dans une autofiction ou dans une BD autobiographique. Il réussit à raconter cette histoire-là avec une forme de détachement. Il est un peu... il se regarde un peu comme enfant. Il est un petit peu au-dessus de tout ça.
Est-ce qu'en termes de détachement, c'est souvent, je pense à David B., qui réussit à raconter avec une certaine froideur des trucs assez intenses qui lui sont arrivés. Est-ce qu'on a un détachement comme ça, ou c'est plus un détachement narratif?
Non, il y a un détachement où il réussit à raconter cette histoire-là, comme tu dis, comme David B. peut le faire. Mais il y a aussi le jeu narratif ne semble pas être le jeu de celui qui dessine. Okay. Il reste, je sais pas pourquoi, mais ça reste un jeu qui reste un personnage de BD et non pas l'auteur derrière le personnage de BD. Je pense au petit frère de Jean-Louis Tripp, par exemple, où le jeu est très incarné par Jean-Louis.
Oui, clairement là.
C'est clairement un gros jeu. Tandis que là, c'est un jeu poétique, un jeu travaillé. C'est peut-être ça. Et le dessin, c'est des tableaux. Chaque dessin est une toile de Klimt. C'est extraordinairement bien dessiné, bien raconté, bien... Ça coule, puis ça faisait longtemps que j'ai lu une BD où je me perdais dans ma lecture, dans le dessin, où je prenais le temps de regarder un dessin, et hop, je repartais. Ça crée une forme de lenteur dans la lecture qui est extrêmement intéressante, parce que on peut pas passer ce dessin-là de façon rapide. Ça me fait penser un peu à Matotti. On peut pas lire rapidement Matotti, ou il faut le relire tout de suite après, parce qu'il y a quelque chose au niveau du dessin qui est trop touchant, qui est trop fort. Il faut prendre le temps d'apprécier les heures et les heures de travail qu'il y a là-dessus.
Oui, on parlait du côté expérientiel, mais on force à l'expérience avec un dessin, une ambiance qui est très, très forte, qui est très vive, mais comme tu dis, tu forces à l'arrêt. Ça devient un procédé presque pour rythmer différemment le récit, pour évoquer des images, pour nous amener dans les images que ça lui évoque.
Absolument. Et le jeu est pas mal plus là. C'est-à-dire qu'on sent la présence de l'auteur beaucoup plus dans le dessin et dans cette puissance du dessin-là que dans le texte. Tandis que si je reviens à Jean-Louis, son dessin dans Le Petit Frère est un dessin qui est une écriture. C'est un dessin qui est très rapide, qui est très hyperactif à quelque part. Tu sais,
qui est inspiré des émotions, qui nous amène des émotions dans le trait, dans la rapidité, dans la vivacité du trait. Tandis que là, c'est peut-être plus une interprétation, j'aurais envie de dire cartésienne, où on image l'émotion.
On fige les émotions, on fait des tableaux des émotions. Et d'ailleurs, l'histoire part sur la perception qu'a l'auteur d'un tableau de son grand-père. Quand il voit un tableau de son grand-père, qu'il voit les yeux de son grand-père, la tristesse qu'il y a dans ce tableau-là, quand il est tout petit, il reste hanté par ça. Et quand il commence à faire une recherche sur son grand-père, qu'il voit qu'il a fait les camps de concentration, qu'il a été mis à mort, qu'il a fait de la prison.
Oui, puis il y a une logique, en fait. C'est l'idée du poids d'une image qui va nous hanter, qui va nous marquer, qui va nous s'imprimer en nous, mais dans le fond, nécessairement, il faut qu'il lui réussisse à rendre ça en bande dessinée.
Absolument,
aussi. Absolument. Et créer ce type d'images-là qui vont nous marquer, qui vont transformer Le poids des héros d'une lecture en une expérience.
On frôle le chef-d'œuvre, là.
Oh, à ce point, OK.
On frôle le chef-d'œuvre, autant au niveau de la charge émotionnelle qu'il y a dans ça, de la charge émotive, puis au niveau aussi de la puissance graphique, là. En tout cas. Moi, j'ai lu ça, là, puis j'étais ailleurs après, là. Vraiment.
Oui, c'est le genre de BD où faut que tu laisses la poussière retomber après l'avoir lu.
Tu lis pas ça au petit coin, là.
Non. Alors, en fait, des fois, on se fait avoir. En fait, je sais pas pour toi, mais on part avec une liste, avec une pile de lecture, puis finalement, on se rend compte que, OK, on pourra pas la lire dans le contexte dans lequel on se trouve, qu'il y a trop de bruit autour, qu'il y a trop d'action,
ouais.
Et on est obligé de la reporter, ou au contraire, on est pogné dans la lecture, on n'est pas capable de s'en libérer, puis ça chavire complètement la balance de la journée.
Oui,
parce
puis
que...
le cinéma te rend captif et tu t'obliges à un moment donné à embarquer dans ton film quand tu vas en salle. On y va-tu encore en salle?
Des fois.
Tandis qu'une BD est là, puis elle t'attend.
Oui.
Donc, elle va attendre le bon moment. Puis, le poids des héros, là, si on regarde la couverture, là, moi, je l'achète pas. Là. Tu sais, je vais pas... je suis pas attiré par cette BD-là comme d'autres, là. Mais même quand tu la feuilles, t'es pas sûr. C'est beau, mais c'est bizarre. Mais quand tu commences à la lire, tu dis « Oh boy, j'aurais passé à côté de quelque chose de grandiose. »
Alors ça, c'est « Le poids des héros », donc c'est chez Casterman. J'aurais envie de dire 4 suggestions, donc inspirées d'un ensemble de suggestions. Dans le fond, bon, on peut se référer, comme tu disais, aussi au palmarès d'Angoulême, au reste, mais je pense qu'on a 4 titres qu'à tout le moins, ils ont le, si tu me permets l'anglicisme, le Stéphane Gravel Stamp of Approval. Stéphane Gravel, on se dit à l'année prochaine?
Comment ça, l'année prochaine?
On est déjà rendu là?
Eh oui.
Eh oui. Alors, à l'année prochaine, merci beaucoup d'avoir partagé ton mois à BD avec nous ici à l'émission.
Fait plaisir.
Et nous, c'est ainsi qu'on termine cette édition de La Vie en BD. On se retrouve la semaine prochaine avec une entrevue sur les super-héros au Québec. Alors, j'en dis pas plus, mais je vous invite à nous suivre donc la semaine prochaine. Mais d'ici là, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente soirée, une excellente semaine.